France Musique. France Musique. Les grands entretiens, Laurent Villarem.
Je suis Willem Lachoumia et je suis né le 2 mai 1974 à Lyon. Je suis pianiste.
Bonjour Willem Lachoumia.
Bonjour.
Nous venons vous voir à Strasbourg et je crois que vous venez d'emménager dans cet appartement.
Oui, tout à fait, c'est un nouvel appartement pour moi. J'étais déjà à Strasbourg depuis 2-3 ans et là voilà, je viens d'aménager ici.
Et là, nous nous trouvons dans votre salle de travail. Je vois deux pianos.
Tout à fait, c'est juste à l'entrée, sur la droite, il y a deux pianos. Il y a un Bösendorfer qui date des années 80 de 2,10 m. Et un autre, c'est un piano, alors c'est un peu particulier, c'est Casio qui a travaillé avec Bechstein pour faire un piano numérique avec une mécanique de piano à queue à l'intérieur.
Il y a également beaucoup de partitions ?
Oui, tout ce que j'ai engrangé depuis que je suis petit, on va dire. Et puis des choses que j'ai jamais jouées aussi.
Et je vois également plusieurs petits objets très amusants. Est-ce que vous pourriez nous en parler ?
Ah oui, ce sont des pianos jouets, alors des toy pianos. Donc il y en a, je sais pas combien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oh, 9, il y en a un autre ici, oui, avec différentes marques. Voilà. On appelle ça toy piano en anglais.
Ça s'appelle être un collectionneur ?
Quelque part, oui, mais ça vient de plus loin. L'idée n'était pas de les collectionner, l'idée était de jouer une pièce en particulier.
Est-ce qu'on pourrait entendre le son d'un toy piano ?
Il y a différentes marques. Alors, il y a Schoenhut, qui a encore ses usines aux États-Unis. Puis, il y a un ancien qu'on ne trouve plus, qui n'existe plus, qui est Gemar, toujours aux États-Unis. Je vais me rapprocher. Alors, celui-ci a une de trois octaves chromatiques. Voilà, un peu le son.
William Lachoumia, vous avez découvert le piano à 6 ans avec un piano dans un supermarché, c'est ça ?
Oui, c'était un piano qui se branchait, un piano, une espèce de piano électrique où il devait y avoir peut-être, je pense qu'il y avait 3 octaves. Et je me souviens qu'il était orange et qu'il fallait le brancher, qu'il y avait une espèce de ventilation à l'intérieur. Voilà un peu ce qui me reste un peu de l'enfance, on va dire.
Est-ce qu'il y a un lien entre collectionner des toy pianos et avoir le choc d'un piano à 6 ans ?
Peut-être que inconsciemment, oui, peut-être. Mais à la base, j'étais fan de John Cage. Enfin, je le suis toujours. Hein. Et j'ai vu dans son répertoire, enfin, en tout cas dans sa liste de pièces qu'il a composées, il y en a beaucoup. Il y avait deux pièces qui m'intriguaient. Il y en a une qui s'appelle La Suite for Toy Piano et Music for Any Toy Piano Amplified. Ce qui s'est passé, la collection a commencé quand j'ai commandé la partition, qui a eu un peu de mal à arriver. Enfin, qui a mis un peu de temps. Je me suis procuré un tout premier piano dans un magasin de jouets. Et en recevant la partition, je me suis rendu compte qu'il me manquait des notes. Donc la collection a commencé comme ça. Et évidemment, comme je suis curieux, j'ai sondé Internet pour savoir si d'autres compositeurs s'étaient intéressés à ce jouet. Et je me suis rendu compte qu'il y en avait quand même pas mal. Et c'est là que j'ai commencé la collection, parce que évidemment je voulais jouer les pièces et il me manquait des notes. Donc ça a commencé comme ça, la collection.
Donc c'est pas lié à l'enfance, mais à John Cage ?
À John Cage plutôt, et peut-être inconsciemment à l'enfance, qui sait.
Si on revient à ce moment de quand vous aviez 6 ans, qu'est-ce que vous avez ressenti devant ce piano ?
D'abord, j'ai eu le bon tant pis.
Ah, le
et
fameux.
C'est le bon tant, enfin je dis bon tant pis, mais je sais même pas si c'était cette marque. Et pour la petite histoire, j'étais tellement mauvais à l'école que... C'est le professeur de CE1, je crois, qui a dit à ma mère, je pense que le fait de faire un instrument, ça va peut-être débloquer quelque chose, parce qu'on n'arrive à rien avec lui. Il est très gentil, mais il comprend absolument rien. Voilà, c'est ça.
Et de nos jours, vous comprenez uniquement le piano ou vous comprenez une autre chose ?
Ben, je comprends le toy piano aussi.
Quand vous jouez du toy piano, est-ce qu'il y a cette idée d'enfance ou pas du tout ? Est-ce que les œuvres pour toy piano ont une part d'enfance ?
Généralement, oui. Il faut dire que la sonorité se rapproche un peu du Celesta. On pense tout de suite à Tchaïkovski et la fée dragée. Il y a souvent cette idée d'enfance qui revient dans les pièces pour toy piano.
Nous allons passer dans le salon de votre appartement. Est-ce que vous pourriez nous jouer une petite chose pour toi et piano ?
Alors, je repose ça. C'est le début de la suite de John Cage.
William Latchoumia, nous sommes maintenant dans votre salon.
Oui.
Qui est très agréable, très, très aéré.
Oui, très calme. Il y a 6 fenêtres qui donnent sur l'arrière-cour.
Pour Strasbourg, c'est très lumineux.
Oui, en effet, c'est pour ça que j'ai choisi cet appartement.
Willem Latchoumia, je voudrais tout d'abord commencer par votre nom. Déjà, on dit Willem et pas Willem.
Oui, c'est Willem. C'est ma mère qui a trouvé ça dans un journal, je crois. Et voilà, tout simplement. Il y a aucune référence à l'Allemagne ou au Danemark, je ne sais pas.
J'aurais imaginé qu'elle était amatrice de musique, elle aimait Schumann ou le répertoire romantique.
Pas du tout, mes parents n'écoutaient pas de musique.
Alors que Latchoumia, je sais que c'est un nom que vous avez découvert dans un livre, à un moment très précis de votre vie.
J'ai découvert ça dans un roman de Raphaël Confiant, La panse du chacal, qui raconte comment, à la fin de l'esclavage, on est allé chercher les Indiens, les intouchables, pour travailler dans les champs de canne. Du coup, c'est un peu l'histoire de la famille de Raphaël Confiant, parce qu'on le découvre à la fin du livre. Et à un moment, il parle d'un certain Latchoumia à Bordeaux. Et du coup, c'était un peu étonnant de voir son nom, parce que il n'est pas très répandu en Martinique. On n'est pas très nombreux à porter ce nom-là. Donc c'était assez...
Et vous étiez déjà connu à ce moment-là ? Peut-être Raphaël Confiant a vu votre nom ou
Non, je pense pas. J'ai essayé de le contacter, mais il m'a pas spécialement répondu. Enfin, il m'a pas répondu du tout même.
Car vous avez des origines, des ascendances indiennes, n'est-ce pas ?
Oui, alors du coup je me suis renseigné après. Mon arrière-grand-père, du côté maternel, est le père de mon père. On n'en sait pas grand-chose, pour ne pas dire qu'on ne sait absolument rien, parce que du coup, à l'arrivée des Indiens sur les îles, ils étaient un peu mal considérés parce qu'ils remplaçaient du coup les travailleurs de la canne et ils ont été un peu mis de côté. C'était même dans l'histoire de la Martinique, en tout cas, je sais pas pour la Guadeloupe, mais c'est souvent une insulte quand on parle d'indiens d'Inde en tout cas. C'est quelque chose qui était assez tabou finalement. La grand-mère ne voulait pas en parler, personne n'en parlait. Pas de transmission à ce niveau-là. Donc on ne sait pas grand-chose. Je sais qu'il était bouché et qu'il était au nord de la Martinique, mais ça s'arrête là.
On va voir dans ces grands entretiens que vous adorez le Brésil, mais l'Inde, dans votre vie d'homme, qu'est-ce que ça représente ?
Eh bien, pour l'instant, pas grand-chose. J'ai beau me renseigner à ce sujet, ça ne m'attire pas spécialement. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a peut-être une peur de découvrir ce qu'il y a derrière ou au contraire de se dire, finalement, j'ai eu aucune information et j'en aurai aucune. Parce qu'il faut penser que, à l'époque, c'était les intouchables. Donc, c'est une caste on ne trouve pas de traces, finalement. Donc, ça reste un peu un mystère, je dirais.
Édouard Monique, Aimé Césaire.
La première question qui me vient, parce qu'on est insulaires tous les deux, c'est de te demander ce que tu penses de la dimension du Nil dans la vie d'un homme.
Ah, ce que tu as mis le doigt, c'est une chose très importante. Le thème de l'île, et c'est pas un thème littéraire, en fait. Toi, tu écris d'une île, tu sais très bien l'importance fondamentale que ça a. C'est le symbole d'un tas de choses. D'abord, l'île, c'est tout bêtement ce phénomène géographique d'une terre entourée d'eau. Et quand je pense à l'île, je pense évidemment d'abord à ma Martinique, je pense à tout ce que cela comporte de soleil, de chaleur, de joie. Mais c'est aussi l'univers de la claustration. Il y a ça.
Quand on lit des articles sur vous, on lit souvent un pianiste martiniquais. Est-ce que c'est pas un peu abusif ou c'est une appellation que vous acceptez ?
J'accepte les... Oui, français, martiniquais, j'accepte les deux finalement.
parce que j'ai un peu... Enfin, je suis né à Lyon, j'ai grandi à Lyon, je suis parti en Martinique, je suis revenu. J'ai vécu 2 ans là-bas aussi.
Vous aviez quel âge ?
J'avais 3 ans. Et j'y suis retourné quand j'étais à peu près en CM2, 6e. Là, j'ai vécu 2 ans. Sans piano, d'ailleurs. C'est assez étonnant.
Par conséquent, on vous associe la Martinique à l'absence de piano. C'est autre chose que le piano ?
C'est autre chose que le piano. Et comme je disais tout à l'heure, j'étais pas très bon à l'école. Et après ce voyage, les choses ont complètement changé, complètement viré de bord. C'est-à-dire que quand je suis revenu en métropole, je me suis retrouvé premier de la classe. Voilà.
C'est l'effet de la Martinique ?
Je me demande s'il n'y avait pas quelque chose à aller chercher là-bas.
Qu'est-ce que vous y avez fait pendant ces 2 ans, quand vous y avez 10 ans ?
Jouer à la plage, manger dans les arbres, grimper aux arbres, vivre quoi finalement. Peut-être quelque chose qui s'est ouvert à ce moment-là.
Alors qu'à Lyon, vous étiez un petit peu enfermé ?
J'étais très timide. Je disais pas grand-chose, j'étais assez réservé, même très.
Est-ce que ces racines, elles étaient importantes dans votre adolescence ou c'est venu plus tard ?
C'est venu beaucoup plus tard, il y a 15 ans à peu près. Le fait d'avoir justement, je pense que c'est le choc du livre, le fait de voir son nom et se dire « mais finalement, d'où est-ce que je viens ?» Donc je pense que c'est à partir de là que je me suis vraiment posé la question. Pendant un long moment, je ne suis pas retourné en Martinique. Et mes parents s'y sont installés pour la retraite, ils sont retournés. Et c'est quand je suis allé les voir que je me suis mis à parler créole d'un coup. Et tout le monde m'a regardé, ma mère m'a regardé, elle m'a dit tu parles créole maintenant, c'est nouveau. Je fais non, je le savais même pas.
Alors que vous aviez 30 ans, 35 ans?
Oui, dans ces eaux-là. Et je me suis rendu compte que finalement j'avais appris cette langue malgré moi. Je sais pas, c'est resté dans un coin du cerveau et ça s'est ouvert à ce moment-là. Donc c'est assez étonnant. Même moi, je me suis surpris.
Il faut le parler encore, d'après vous ?
Oui, je parle. Mais c'est un peu particulier. C'est-à-dire que je peux parler créole quand on me parle créole. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui se débloque à ce moment-là. Du coup, je réponds en créole. Mais si on me demande de sortir une phrase en créole comme ça, c'est... j'ai pas...
Vous avez senti que j'allais vous le demander.
Oui, oui.
À Saint-Pierre, en Martinique, votre arrière-grand-père s'appelle Paul-Pierre Charles et il y a un stade qui porte son nom, n'est-ce pas ?
Oui, c'est ça.
Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ?
Alors, c'est pas l'arrière-grand-père, c'est le grand-père.
Le grand-père.
C'est le grand-père. Je sais pas grand-chose, finalement. Ma grand-mère est plus là, donc c'est compliqué de... Quand j'ai commencé à me poser des questions, elle était déjà partie. Je sais qu'il était maire de Saint-Pierre. Et
Donc c'était un notable ?
Oui. Mais ma grand-mère était sa maîtresse.
Ok.
Donc c'est pas le même statut, en sachant qu'il y avait du sang indien du côté de ma grand-mère. Donc je sais pas comment ça s'est vraiment passé à cette époque-là. Ça devait être un peu compliqué, je pense. Même très compliqué.
Est-ce que vous retournez souvent en Martinique de nos jours ?
Alors régulièrement, mon père a disparu il y a 3 ans maintenant. Donc j'y vais un peu moins souvent. Je pense que c'est lui qui m'a rapproché la Martinique. Parce que lui venait du nord, de Basse-Pointe. Et mon arrière-grand-père indien habitait aussi à Basse-Pointe à cette époque-là. Et c'est plutôt avec lui que j'ai approfondi, la vie martiniquaise.
Car vos deux parents sont martiniquais.
Ma mère est de Saint-Pierre et mon père est de Basse-Pointe.
Et vous savez où ils se sont rencontrés et pourquoi ils sont venus en France ?
Simplement pour trouver du travail, parce que dans les années 70, on sait que la situation dans les îles n'était pas florissante. Donc ils sont venus en métropole, tout simplement pour travailler, ils se sont rencontrés à ce moment-là.
Votre père était militaire, je crois ?
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faisait ?
Oh, il travaillait dans la partie administrative, essentiellement. Donc voilà, il travaillait à l'hôpital à Lyon-Desgenettes. On a pas mal bougé, enfin. On est allé en Martinique, et puis après en Nanterre, après les Mureaux, voilà.
Bon, on va sans doute parler de cette enfance un peu itinérante, mais pour terminer un peu sur tout cet aspect martiniquais et antillais, est-ce que vous lisez d'autres livres de littérature antillaise ? Est-ce que vous avez approfondi ?
Alors, je me suis intéressé à Chamoiseau. Notamment, il y a un livre qui est assez étonnant qui s'appelle Texaco.
Prix Goncourt en 92.
Oui, tout à fait. Où il parle, là, on est dans une autre ville en Martinique, on est plutôt à Fort-de-France, où il parle de ces bidonvilles. Et ce qui est assez étonnant, il y a une espèce de poésie dans la façon dont il écrit. C'est complètement différent de Raphaël Confiant. Et il mélange le créole et le français. C'est-à-dire, il invente, entre guillemets, une nouvelle langue. C'est assez étonnant. Et c'est assez compliqué pour moi de le lire, parce que du coup, évidemment, je parle créole, etc. Je peux répondre, je suis dans une conversation. Mais alors, quand il s'agit de le lire, ça devient très compliqué, parce que je suis obligé de lire lentement, d'accélérer, et parfois de lire à haute voix, pour réussir à comprendre ce qu'il y a d'écrit.
Retourner en Martinique, est-ce que vous vous sentez étranger ou pas du tout ? Ou différent ?
Alors, c'est... étranger, je sais pas. Peut-être qu'on me voit comme un étranger, un peu. Comme je suis pas né... je suis pas né dans l'île. Quand j'y vais, je reste en famille, généralement. Enfin, les dernières fois où j'y suis allé, c'était quand mon père était encore là, donc je traînais avec lui, tout simplement. Donc, il n'y avait pas de... Non, je me sentais pas spécialement étranger. S'il y a une tante, une fois, qui m'a dit « Ah, mais finalement, t'es un vrai Martiniquais !» Du coup, c'était là, voilà. Il y a toujours ce problème-là, et c'est cette génération qui est partie. Je parle de mes parents et tous ces gens qui sont venus travailler en métropole et qui sont retournés. Le fait de retourner au pays natal, c'est pas forcément facile. On n'est pas forcément bien accueilli, je crois. Donc je pense que pour eux, ça a été plus problématique que pour moi. Moi, je venais simplement voir mes parents. Ils seraient sur la Côte d'Azur, ce serait pareil.
Et en France, qu'est-ce que parfois vous a fait ressentir que vous étiez un étranger, le fait d'être d'origine martiniquaise ? Est-ce que vous avez déjà expérimenté le racisme, en musique ou ailleurs ?
Ah, mais régulièrement, dans les transports. Oui, la dernière fois, c'est il y a 3 semaines... En allant donner mes cours à Berne, on m'a arrêté pour vérifier mon identité, mon permis de travail. Le train était bondé parce que c'était aux heures de pointe. J'avais pris un des trains les plus tôt. Et ben, j'étais le seul à être contrôlé, tout simplement. C'est bête à dire, mais j'ai pris l'habitude.
Et le fait d'un des rares pianistes d'origine martiniquaise, est-ce que ça vous a causé des expériences étranges ?
Oui, un peu moins maintenant, mais au tout début, j'avais souvent cette question qui revenait, du public, enfin de certaines personnes dans le public qui venaient me voir à la fin des concerts et qui me demandaient, un peu gêné, est-ce que vous faites pas un peu de jazz ? Alors du coup, je réponds, ben non, et pourquoi ? Ou encore, qu'est-ce que j'ai... Ah oui, en Autriche, ça c'était moins drôle. À la fin d'un concert, il y avait un repas, il y a 2 dames qui m'ont regardé, qui n'ont pas arrêté de me parler en me disant « Mais pourquoi vous avez un tel prénom ? On ne s'attendait pas à voir une personne comme vous monter sur scène. »
Et comment vous réagissez dans ces cas-là ?
je crois que j'ai pas spécialement réagi. J'ai fini mon plat et je suis allé me coucher.
Est-ce que vous écoutez de la musique martiniquaise ou antillaise ?
Un petit peu. J'aime beaucoup Mario Canonge, qui est un pianiste. D'ailleurs, j'ai joué avec lui. Je l'ai contacté. Parce qu'il a une façon de... Il va beaucoup plus loin. Il a une formation jazz. Et il arrive à mêler les deux. C'est ça qui m'intéresse.
Mêler les deux, c'est-à-dire
La musique antillaise, traditionnelle, entre guillemets. On parle de mazurka ou des choses comme ça, des musiques de bal. Et le jazz. On a déjà fait un projet ensemble où on est parti de Darius Milhaud. C'était drôle parce qu'il m'a demandé d'improviser. Moi, j'improvise très peu. Hein. Et lui, je lui ai demandé de lire de la musique. Du coup, voilà. Du coup, ça a été difficile pour lui. On a joué le bal martiniquais de Darius Milhaud. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que il y a deux citations de chants traditionnels créoles à l'intérieur. Et à un moment, il m'a dit, non, mais Darius Milhaud s'est trompé dans la biguine. Le rythme de la biguine, c'est pas exactement ça. Et alors, du coup, on a, je sais pas si on peut le dire, on a changé légèrement le rythme de la biguine pour vraiment coller aux racines.
C'est sur cette biguine du bal martiniquais de Darius Milhaud, pas tout à fait traditionnel, selon le pianiste jazz Mario Canonge, que s'achève ce premier épisode des grands entretiens de Willem Lachumia. Dans le prochain volet, Willem Lachumia revient sur ses origines antillaises et parle également de son enfance à Lyon ou comment, enfant rêveur, il a découvert la musique. Une série proposée par Laurent Villarem, mixée par Manon Houssin, prise de son Martin Troadec, attachée de production Marie-Christine Ferdinand, réalisée par Philippe Petit.
Une série à retrouver d'ores et déjà en podcast dans son intégralité sur l'application Radio France.
À réécouter sur francemusique.fr.